Giga Diva. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale, une coproduction de Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali et Studio Kalangou au Niger. Trois médias de la Fondation Hirondelle réunis à Bamako pour débattre d'une question cruciale. Pourquoi les mutilations génitales féminines continuent au Sahel? Nous avons réuni des experts et acteurs engagés ainsi que des traditionnalistes et étudiants pour discuter de cette problématique persistante dans la région. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le débat se fera en deux parties. La première partie de 45 minutes et les invités sur plateau. Et la deuxième partie de 45 minutes également aussi avec le public qui pourra notamment témoigner ou poser des questions. Ce débat public est coanimé par trois personnes. Je suis Aimé Roulan Ouidraogo des studios Yafa du Burkina Faso.
À ses côtés, Rafika Taher du studio Kalangou du Niger.
Et c'est moi, Mariam Maïga, qui va introduire le public dans cette émission. Bonjour le public. Bonjour. Répondez quand même plus fort.
Bamako, alors, est-ce que vous êtes là?
Oui.
On ne vous sent pas, faites du bruit.
Oui.
Merci.
Alors le public, il est constitué des étudiants en journalisme de l'ICAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, de l'ONG AMSOF, qui travaille beaucoup sur les pratiques anciennes, également de la direction de l'enfant, direction nationale de l'enfant et de la famille.
Merci bien, Mariam Koulibaly.
Elles sont considérées dans certaines communautés comme un moyen d'asservir la sexualité des filles ou de garantir la chasteté, et dans d'autres communautés comme un prérequis au mariage. Il s'agit de la mutilation génitale féminine. Toutefois, ces pratiques ont de fortes conséquences sur les femmes, affirment des spécialistes de la santé. Malgré la pratique de l'excision, l'excision persiste encore dans les pays du Sahel, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de débat qui porte sur pourquoi les mutilations génitales féminines continuent au Sahel.
Merci bien, Rafika. Nous avons sur ce plateau comme invité Madame Koulibaly Ramata Traoré. Elle est membre de la CAFO, Coordination des associations et organisations féminines. Également sur ce plateau avec nous, Dioda Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, présidente de l'association LADAMOUSO des adolescents et jeunes du Mali. Également sur ce plateau, Amadou Diadie Sango, homme de culture et... Pour terminer, Brahima Balo, de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Avant de poursuivre notre débat, découvrons une capsule réalisée par nos confrères de Tamani au Mali. Cette capsule aborde les conséquences et les efforts de lutte contre les mutilations génitales au Sahel. Elle porte la voix de Mariam Koulibaly.
La mutilation génitale féminine est l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Cette pratique fait des ravages dans les pays du Sahel, selon les défenseurs des droits des femmes. Au Mali, le Programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre s'appuie sur les ONG pour mener à bien cette lutte. Anaï Sagara, chargée de planification.
Coordonner ça. Donc, il y a des ONG qui s'occupent uniquement de la prise en charge, d'autres s'occupent de la prévention, et d'autres s'occupent des deux. Voilà, donc les cas répertoriés, les cas identifiés, et sont très souvent référés vers les services de santé. Donc, en cela, nous travaillons vraiment les mains dans les mains avec les services de la santé, les CCRF, les hôpitaux, les SESCOM et tout récemment les One Stop Center, avec lesquels nous travaillons beaucoup pour en tout cas prendre en charge ces complications de l'excision, ces complications de mariage d'enfants, bref, toutes ces pratiques traditionnelles néfastes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui.
Si les causes sont traditionnelles pour les uns et religieuses pour d'autres, les conséquences sont aussi désastreuses du point de vue des spécialistes de la santé. Dr Mamadou Guédjouma Kone, promoteur de la clinique Mère-Enfant Wabri Kone, rencontre des cas au quotidien.
Il peut avoir les chocs hémorragiques. Les instruments ne sont généralement souillés. Donc l'enfant peut faire une crise tétanique, le tétanos, après l'excision. ça va causer une plaie au niveau de l'appareil génital externe. Bon, surtout les complications liées surtout à l'accouchement. Ce sont des femmes qui arrivent au cours de leurs accouchements, même si c'est 3-4 accouchements, on va faire une épisiotomie, on va élargir un peu le vagin au cours de l'accouchement. C'est-à-dire que l'accouchement peut être très, 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 très laborieux. Ça peut causer même le décès de son enfant. Voilà, le traumatisme psychologique, c'est encore grave. Une fois que la dame rentre dans la salle de consentement, tu vas voir que la dame va commencer à parler de ces choses.
L'inexistence de textes au Mali conforte les parents et les exciseuses à poursuivre cette pratique. Mais le meilleur des combats reste l'éducation.
Grand merci à Mariam Koulibaly pour cet élément. Nous revenons ici avec nos invités. D'entrée de jeu, nous allons revenir un peu en arrière. Madame Dioda Diallo, vous êtes spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Dites-nous, qu'appelle-t-on mutilation génitale féminine?
Alors, bonjour tout le monde. C'est Madame Diodo.
Diodo, autant pour moi.
C'est Diodo Diallo. Comme votre journaliste l'a dit, Mariam, c'est une intervention au niveau de l'appareil génital de la femme. Cette intervention va consister à faire l'ablation des parties génitales, c'est-à-dire le clitoris, parfois il y a les petites lèvres, les grandes lèvres parfois. Donc ces personnes-là font ça à des fins culturelles généralement, mais pas à des fins thérapeutiques, pour expliquer plus simplement pour nos publics. Merci.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Oui, nous allons progresser avec Monsieur Ibrahim Abalo. Vous êtes homme de culture. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formes de mutilation génitale féminine que l'on trouve chez nous?
Je suis responsable d'une ONG. Donc, qui s'occupe des pratiques culturelles néfastes de chez nous et qui promeut également celles qui nous fait avancer. Les formes de mutilation génitale féminine, hein, l'OMS a identifié 4 types d'excisions.
Okay.
Oui, mutilation génitale féminine chez nous, donc c'est plus compris sous les. Enfin, le commun des Maliens comprennent. Et mutilation génitale finit par excision. Donc il y a le type 1 en langage médical, c'est ce qu'on appelle la clitoridectomie, qui consiste en l'ablation du clitoris. Le type 2, donc qui est communément appelé sous le vocable de excision, l'excision qui consiste non seulement à faire l'ablation du clitoris et également les petites lèvres. Le type 3 consiste à faire et l'ablation des clitoris, des petites lèvres, parfois une partie des grandes lèvres. Et ensuite, on procède à l'accolement. Donc, d'autres appellent ça en termes médicaux infibulation. Le type 4, ce sont les types non classifiés par l'OMS, qui consistent à l'introduction d'excitants corrosifs dans les vagins, soit à appliquer des objets donc tranchants ou corrosifs sur l'organe génital. Enfin, tous les autres types qui n'entrent pas dans ces trois types-là. Et j'avoue que dans la salle, il y a d'autres experts ici qui sont là, donc que vous pouvez également consulter pour plus d'argumentation.
Est-ce que vous pouvez nous dire culturellement, la pratique est-elle ancrée partout dans le pays?
Eh bien, bien sûr, quand tu prends les statistiques, au Mali, 81% des femmes de 15 à 49 ans, celles en âge de procréer, ont subi cette pratique. Et 113% des enfants de 0 à 14 ans ont subi la pratique de l'excision. Donc l'excision, elle est pratiquée partout au Mali, que ce soit en milieu urbain ou rural, que ce soit par les non scolarisés et les très hauts diplômés.
Quelle est la région la plus touchée au Mali ici?
La région la plus touchée au Mali, c'est la région de Kayes.
Et selon vos informations, vos sources, parmi les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali, qui vient en tête de liste?
Bien sûr, le Mali vient en tête de liste. Mais on va en parler. Je sais que dans les débats, on va pouvoir en parler.
Okay.
Et il est important qu'on puisse mettre en place une stratégie, sachant que l'excision va au-delà de nos frontières, que vraiment les pays frontaliers du Mali puissent s'unir pour mettre fin à la migration transfrontalière.
Ok. Merci bien. Nous allons revenir à notre spécialiste santé, Madame Diodo. C'est bien ça? Voilà. Dites-nous, côté santé, quelle différence pourrait-on faire entre les femmes excisées et celles non excisées? Prenez le micro.
Alors, côté santé, bien sûr qu'il y a une différence, une très très grande différence d'ailleurs. Les femmes non excisées, par exemple, lors de l'accouchement, je dirais que les femmes non excisées n'ont pratiquement pas de problème côté accouchement. Les problèmes peuvent survenir de différentes manières, mais pas par l'appareil génital en tant que tel, sauf s'il y a d'autres problèmes. Par contre, une femme qui est excisée lors de l'accouchement peut avoir beaucoup de problèmes. C'est généralement chez les femmes qui sont excisées qu'on conseille de faire des pratiques de la césarienne, par exemple, soit l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est lors de l'accouchement. Le fait que le vagin, l'ouverture du vagin est tellement rétrécie à cause des séquelles de l'excision, on va devoir déchirer la femme pour que l'enfant puisse sortir. Et après ça, ils vont procéder à l'incision pour remettre l'entrée du vagin comme elle était.
Voilà. Et quelles sont les conséquences immédiates sur la santé physique de la femme ou de la fille soumise aux mutilations génitales?
Bon, les conséquences immédiates peuvent être, par exemple, lors de l'excision, la jeune fille ou bien la femme en question peut perdre beaucoup de sang, c'est-à-dire faire une hémorragie. Et ces hémorragies-là, malheureusement, si ce n'est pas pris en charge à temps, peut conduire au décès de cette dernière. Il y a également des douleurs au moment de l'excision ou juste après. On peut ressentir des douleurs. Il y a énormément de conséquences liées à l'excision.
Oui, Madame Diodo, puisqu'on parle de conséquences, est-ce que ces mutilations peuvent avoir des impacts sur la santé mentale et émotionnelle de ces femmes excisées?
Oui, ça fait partie des conséquences, les conséquences liées à l'aspect psychologique. Parce qu'il faut reconnaître quand même que l'excision, c'est une pratique qui est vraiment traumatisante pour la jeune fille et pour la femme. Voilà.
Merci bien. Allons nous tourner vers M. Amadou Dadié Sango. Dites-nous, vous, en tant que Malien, que représente pour vous l'excision?
Moi?
Oui.
Ce que représente pour moi l'excision?
Alors, l'excision, c'est une pratique pré-islamique reconduite par l'islam et encadrée. C'est une pratique qui appartient à toutes les vieilles sociétés et jusqu'à présent, on a suffisamment parlé de cela sans s'adresser au public cible parce qu'on a toujours parlé en français pour des gens analphabètes. Tout ce que je viens d'entendre là, c'est de l'expertise de haut vol dit en français et qui n'atteindra pas son cible tant qu'il reste à être dit en français. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi? Les médecins ont suffisamment développé le thème tout simplement pour prouver que ce n'est pas bon. Et on a développé les méfaits de l'excision, les qualités, les manières, les conséquences de l'excision. Mais est-ce qu'on s'est jamais posé la question comment est venue l'excision? Pourquoi c'est venu même? Et comment va-t-on éradiquer? Et où est-ce qu'il faut tirer? Quel est le public cible sur lequel il faut tirer? Et quelle est sa langue? Donc je dis que l'excision est une pratique que nous avons héritée d'une période pré-islamique qui a été reconduite avec l'islam, mais très fortement encadrée. Excusez-moi un peu.
Si on vous suit bien, monsieur, vous voulez dire que l'excision vient de l'islam, c'est l'islam qui conseille l'excision?
Ne vient pas de l'islam, d'avant l'islam, j'ai dit pré-islamique.
Et okay. Que ça continue avec l'islam.
Et que ça continue après l'islam, pas avec l'islam. Parce que l'islam ne donne pas un texte sur l'excision.
Mm-hmm. Mais recadre.
L'anecdote que nous avons dans l'islam, c'est qu'un homme a fait l'excision, il en a parlé au prophète qui ne l'a pas déconseillé. Mais le prophète ne l'a jamais autorisé. Il n'y a pas de texte où le prophète a dit il faut circoncire. Il faut circoncider les filles, il n'y en a pas. Par contre, il a indiqué qu'il faut purifier les hommes par la circoncision.
Il a conseillé sur les
de purifier les hommes par la circoncision et d'apaiser les femmes.
Apaiser, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire...
D'épargner les femmes.
Là où j'ai dit d'encadrer, même s'il y a circoncision... Il faut que ce ne soit qu'une ablation très légère. Pas une plaie profonde, mais une ablation très, très légère. Pourquoi? Parce qu'on pense que sur cette partie précise du corps, ça fait partie des points génitaux où la femme a la plus grande sensation. Donc, pour atténuer cette forte sensation, on dit comme ça, c'est des commentaires, chacun essaye d'expliquer, etc., etc. Mais il n'y a pas de texte
pour autoriser
l'excision. Il n'y en a pas.
D'accord.
Enfin, en islam, excision,
vous maîtrisez un peu le sujet. Dites-nous, y a-t-il des avantages liés à cette pratique?
Bon, peut-être que le seul avantage lié à cette pratique, c'est de diminuer un peu la trop grande sensibilité de la femme qui peut lui venir de cette partie génitale.
La sensibilité.
Parce qu'on est entre nous hommes. On sait quels sont les points d'attaque et on sait que cette partie-là, la femme exprime une trop forte sensibilité, une très forte sensation sur cette partie de son corps.
Okay. D'accord. Madame Koulibaly Ramata.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'homme de culture dit?
Monsieur Sango ya fochogamina, netena sego kantu, asugo répétition dit. Bon, muso abe haketo ko amso la ko. Muso ki bulokura abe dobo ika fenga la donika yala la na so ima furu abe dobo yala la chio no fe ba u ba fo era ke muso mi ni bulokura ete nege mi be ela akwa ya fama ko nege mi be ela o te ko mi bulokura bon sisa bol akushuma era ta fana muso ki bulokura akushuma kan no i buloka te mi ma buloko. Donc c'est ça. Bolokoli kwani, boloko balia kwani, comme ça on y a fait chouya mina. Anga islam aya ni akademi, iba ke mena mandi mais am kwani sigilembo odeka. Ama interdit. Ka foko moko ko fi boloka ko forcer là, ama interdit. Mais am kwani be yoro mina kwani. Akake odeka da am bela jela am musula kawi. Parce que am yoro mina bi. Moko chité ces demsanuna. Chemani fara musomani ka antesu la bi antesu la chine pour que ka dobo nege yara lo ka yala da bla chao no fe no bolo kora ani mi bolo ma kwa tese ka kekele chugo si.
OK, merci beaucoup maman. Donc ne be kwa kuma lo yoro na votre intervention. Est-ce que au niveau du public
je vais essayer un tout petit peu de ramasser parce que les deux présentateurs ne parlant pas un peu bambara. Je vais essayer de résumer ce que Aramata Koulibaly vient de dire tout à l'heure. Elle disait que l'excision diminue la sensibilité de la femme, comme ce que Sango a annoncé tout à l'heure à l'entame de ses propos, et que l'accouchement est encore plus facile pour une femme non excisée que par rapport à une femme excisée, et que c'est fait également un peu pour diminuer la sensibilité, pour essayer d'encadrer un tout petit peu les jeunes filles à la maison. Je pense que c'est ce qu'elle a dit en substance tout
on
à l'heure.
Ok, je vais continuer avec Madame Ramata. Si elle peut nous dire s'il y a des défis spécifiques auxquels ces femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne et sociale.
Aïe. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Un boulot poli tafana. Accouchement est la mousson, mais un boulot courant. Obsèque à accouchement, c'est faux chien, tant en inflala. Or, que mime un boulot court. Aka akushuma amana kono taira problem bala dondon ay ni je ne gola ku ya suwi problem bala dondon fakata se akushuma ndoma bo min ndum bolo ku rake akushuma be se ke vraiment ni ala yere ta ta ke abise ka jigi facilement sans problème ou te kele yere. Oui.
OK, je pense que je vais donner la parole à monsieur Ibrahima Diallo.
OK, merci Aimé. Je ne porte en faux par rapport à madame. J'ai du respect pour les dames. C'est un débat. On va, ça fait la richesse de ce débat. C'est tout à fait le contraire. Il est médicalement prouvé que la femme qui a été excisée a plus de chances d'être exposée au cancer et à des difficultés liées à l'accouchement que celle qui n'est pas excisée. J'en avais pour preuve, il y a des thèses de doctorat de nos brillants étudiants, des thèses de mémoire que j'ai encadrées moi-même et la part des étudiants maliens qui ont prouvé que la femme excisée est plus sujette à des complications liées à l'excision qu'il y a des problèmes d'ordre sexuel que la femme qui n'est pas excisée. Donc, M. Sango, il vient du nord du Mali.
D'où vous viennent ces résultats?
Ces résultats, ça vient des thèses, des recherches des étudiants maliens, des recherches.
En quelle année?
Moi, j'ai fini l'université en 1998. J'ai fait mon thème de mémoire là-dessus. Docteur Bibatu Diallo, qui travaille maintenant au FINEAP, a fait sa thèse de mémoire par en 1984. Il a la thèse du docteur Fanny.
Je pense que vous en avez trop de preuves. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Diodo. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ce que Madame ou Monsieur dit?
Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Ballot. En tant qu'agent de santé, en tant que spécialiste dans le domaine, nous voyons énormément, mais je dis bien énormément de problèmes lors de l'accouchement des femmes qui ont subi de l'excision, surtout dans les cas où les femmes ont subi l'infibulation, c'est-à-dire le type 3. Il y a énormément de problèmes. Déjà, le clitoris aide énormément lors de l'accouchement. C'est un organe qui va faciliter l'élasticité du vagin lors de l'accouchement. Et quand il y a l'ablation de cet organe-là, il va de soi qu'il va y avoir un problème lors de l'accouchement. Les femmes qui subissent en général les cas de césarienne, c'est surtout les femmes qui sont excisées. Je m'arrête là.
Merci bien pour toutes ces précisions. Nous allons revenir à l'homme de...
Est-ce que je peux rebondir sur la question? Et s'il y a un intérêt pour ce débat-là, le voilà.
Nous allons vous préciser que c'est juste vous fournir des informations utiles.
Alors, dans ce sens-là,
capable de vous aider.
Voilà
à faire
des
votre
résultats
choix.
Okay. De recherche, d'étudiants, de thèses, des résultats consignés qui ne sont pas portés à la connaissance du public. Ce dont elle parle, c'est une conviction profonde de la société traditionnelle dans son fonctionnement profond.
Okay.
Ce dont vous parlez, c'est les résultats de vos études et, comme on dit en gendarmerie ou en sécurité, vos BRQ, vos bulletins quotidiens de renseignement que vous avez compilés pour arriver à ces conclusions-là.
Donc, pour vous, vous n'accordez pas plus
non,
de crédibilité?
Non, j'ai dit que nous sommes dans un dialogue de sourds. On ne s'entend pas.
Okay.
Ils ont leurs résultats, ils ont leurs convictions, ils ont leurs positions que nous, nous ne savons pas. Dans les pays dont il est question, au Mali, au Niger et au Burkina, quand une femme n'est pas excisée, on la regarde par deux fois. C'est culturel. Alors c'est là-bas qu'il faut aller chercher les causes pour éradiquer ça. Et vraiment, je trouve que c'est déjà un premier résultat de cette rencontre-là, parce qu'on est avec nos scientifiques dans un dialogue de sourds.
Ici, malheureusement, au Mali, nous n'avons pas encore de loi qui condamne les cas d'excision. Les deux types qui sont les plus courants, c'est généralement le type 1 et le type 2. Bon, le type 3 est pratiqué, mais c'est moins que les deux premiers types.
Plongeons dans la deuxième tranche qui explore les voies pour réussir la lutte contre les mutilations génitales féminines au Sahel. Studio Kalangou nous propose une capsule pour approfondir ce sujet. Issa Fatimé, la secrétaire exécutive du comité nigérien sur les pratiques traditionnelles néfastes ayant effet sur la santé de la femme et de l'enfant qu'on y pratique. On l'écoute.
C'est les mêmes exigences de foi qui font le tour. Et c'est ça qu'on ne contrôle pas jusqu'à présent. Et ça aussi, c'est dit à l'insécurité puisque les hommes sont impraticables. Le premier défi, c'est la mobilisation des ressources. La stratégie, c'est la communication sociale. La communication sociale pour un changement de comportement et de mentalité au niveau de la population et la population concernée, là où on a les excisions et la zone pratiquée. Premièrement, de vérifier si toujours elles sont là. Actuellement, on est en contact avec les trois à quatre pays, même le Sénégal, y compris le Nigeria, puisque nous avons un thème commun avec le CIAF, le Comité international de l'Afrique, sur les mutilations génitales féminines. C'est renforcer aussi la sensibilisation. C'est renforcer et vérifier. Nous sommes actuellement à la recherche de ces anciennes exigences qui ont laissé le couteau pour vérifier si elles ont vraiment laissé et les appeler aussi de venir nous rejoindre pour qu'on fasse cette sensibilisation ensemble avec eux. Si tu es du Niger, tu peux partir prendre une exigence du Burkina ou Mali, ou bien tu se déplace même avec l'enfant pour partir vers ces pays-là et exiger la femme et revenir. Donc on est en train de gérer ces problèmes-là avec les différentes organisations féminines qui sont là-bas aussi, de dévoiler et voir qui de droit.
Merci au studio Kalangou pour cet élément. Nous avons ensemble vu les difficultés que cette pratique engendre. Et selon vous, que faut-il faire pour bannir cette pratique hors de nos contrées ou pour modérer ou diminuer les effets néfastes de cette pratique? Je m'adresse à l'homme de la culture.
Merci. Combien de milliards a-t-on mis dans la campagne de sensibilisation? Pour quel résultat? J'en arrive.
Vous,
j'ai dit...
Dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre?
Non, c'est une question fermée,
okay,
à laquelle je ne réponds pas comme ça. J'ai dit qu'on a mis des milliards pour éradiquer le fléau.
Justement, je vais avoir
c'est
votre
parce
position
que
exacte.
Cette campagne de com a été mal faite et le public cible a été mal identifié et le vecteur de communication est raté que jusqu'à présent, la chose continue. Mais l'excision va diminuer et est en train de diminuer et a diminué et est en train de s'éteindre tout seul. Exemple, dans les régions du Nord, vous n'en entendrez pas parler. Je vais vous dire pourquoi, pour une acte que nous avons vécue. Il y a eu 114 filles excisées à Tombouctou à un certain moment. À cause du manque d'hygiène, elles ont été toutes contaminées et décédées. Le conseil de sages a interdit ça puisque ce n'est pas une prescription religieuse, on a interdit. Et la chose s'est étendue à tout le monde, conséquences médicales. Voilà. Donc, on a arrêté ça. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, ça s'arrête tout seul et je suis contre même. Parce que cette lutte-là a été menée dans des bureaux, ce qui appartient à notre société traditionnelle. Cette charge traditionnelle qui nous appartient, au lieu de s'adresser à nous, communicateurs traditionnels, gardiens, à nous, vecteurs de communication de proximité, vous êtes allés dans des bureaux avec vos budgets de communication et restez à communiquer. Si vous voulez que la chose soit recentrée, revenez à la base pour qu'on parle aux gens à la base, pour qu'on leur explique dans la langue de chez eux et en termes d'eux. Dieu a envoyé à chaque prophète quelqu'un des leurs, quelqu'un qu'ils connaissent. Moi, si je vais au nord ou au centre, si je leur dis, on va me dire, c'est Sango qui a dit, donc il a raison. Si toi tu viens, on ne te croit pas parce qu'on ne te connaît pas.
Si on vous suit bien, vous n'êtes pas prise en compte dans les prises de décision. D'accord.
Tout comme.
D'accord. Selon vous, pourquoi?
Hein?
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prise en compte dans les prises de décision
concernant
cette
lutte? Parce que le diplôme, c'est le baptême bureaucratique du savoir. Nous, à la société de base, notre connaissance n'est pas quantifiée en termes de doctorat ou en termes de professorat, mais nous sommes quand même les gardiens de la société traditionnelle avec nos valeurs. On est des porteurs de valeurs. On n'est pas des porteurs d'héritage. Vous voulez communiquer, vous voulez manger votre piment dans notre bouche, ça ne passe pas.
Merci, M. Sango.
Nous allons nous retourner vers M. Brahima.
Oui, là-dessus, j'avoue que pendant un bon moment, nous, acteurs, on a travaillé avec les Récotrades, dont vous faites partie.
Vous faites une affirmation
vous
grave.
Vous avez dit qu'il a participé à vos...
Les Récotrades, c'est-à-dire, quand je dis vous, les communicateurs traditionnels, du Mali.
Okay.
Donc, je vous assimile vraiment à ce groupe-là, qui est le socle dur sur lequel repose vraiment nos traditions. Et en son temps, le programme national de lutte contre l'apartheid et l'excision, mon ONG même a sollicité les recrutements pour faire des activités de sensibilisation.
Ok, merci pour toutes ces informations. Pas pour vous couper. Dites-nous concrètement, est-ce qu'il y a-t-il eu des avancées dans la lutte contre ces mutilations génitales féminines dans vos recherches?
Bien sûr, comme l'a dit le doyen Sango, l'excision est en train de s'éteindre d'elle-même. Au Mali, il y a plus de 1700 villages qui ont été répertoriés comme villages d'abandon de la partie de l'excision. Dans mon ONG, je peux identifier 258 villages qui ont écrit une lettre d'abandon formelle de la partie de l'excision et les couvertures médiatiques ont été faites par l'ORTM. L'ONG APSEF, que je salue, est là, qui a fait des déclarations. Il y a Tostan qu'il faut vraiment saluer. Il y a l'ONG Tanien qu'il faut saluer ici. Bref, tous ces acteurs ont contribué à sensibiliser jusqu'au niveau le plus communautaire, jusqu'à ce que les populations puissent prendre conscience. Mais l'arbre ne saurait cacher la forêt. Il y a encore du travail, comme l'a dit les doyens. Il y a encore du travail et il faut encore travailler pour faire changer la donne. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à des mœurs. On veut changer des comportements des adultes. On veut changer des mœurs. On veut parler de sexualité, des thématiques assez taboues au sein de nos communautés.
D'accord. On continue encore de constater l'excision un peu partout dans le monde, surtout au Sahel. Est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui freinent justement cette lutte contre cette pratique?
Ceux qui freinent cette lutte contre la pratique de l'excision dans le Sahel, c'est que historiquement déterminé par là de l'Empire du Mandé, nous sommes issus de la même culture. Nous avons les mêmes traditions, si bien que dans notre culture, et ces pratiques ont les oreilles dures, entre guillemets, je vais dire. Mm-hmm. Donc, les gens sont réticents au changement. Deuxièmement, il y a une absence de synergie d'action entre les États du Sahel à pouvoir mettre fin à cette pratique-là.
Justement, comment ils doivent s'y prendre justement pour
je viens.
Je pense que les hommes ont monopolisé la parole. Je
n'ai pas fini, okay. C'est important. Je sais que à Rome, il y avait le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, la Guinée. Nous en avons parlé. Qu'il fallait une stratégie qui va, sachant que l'élection va au-delà de nos frontières, il faudra qu'on puisse être unis pour mettre fin à la partie de l'élection. Mais l'instabilité politique dans le Sahel a fait que ces initiatives n'ont pas pu avoir long chemin. Sinon, on a la chance de faire ce débat partout du Sahel, on va pouvoir.
Madame Diodo, dites-nous que doit faire le Mali, le Burkina et le Niger ensemble pour lutter contre cette mutilation génitale féminine.
Moi, j'opte toujours pour la communication. En tant que présidente d'une association qui est basée sur la SR et la lutte contre les VBG.
Je rappelle que l'homme de la culture nous a conseillé de changer notre mode de communication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Oui, notre mode de communication, changer notre mode de communication ne veut pas dire abandonner la communication. Il faut toujours continuer avec la communication, peut-être changer de stratégie. Parce que, il y a tellement de réticences et puis les idées sont, entre guillemets, un peu arrêtées dans le Sahel quand même. Il y a cette histoire d'excision-là, il y a tellement de choses, je dirais, mystiques aussi, cachées dedans, qui fait que le message met du temps à passer.
Madame, merci bien. Oui, Madame Koulibaly, pensez-vous qu'il faudra mettre en avant la sensibilisation, surtout chez les jeunes, pour mener à bien cette lutte?
Nous allons demander à notre interprète maison.
Je ne vois pas l'utilité, je vais traduire ce qu'elle dit, okay. L'utilité de freiner cette pratique-là, parce que pour elle, en tant que femme, la pratique de l'excision a beaucoup d'avantages. Donc, elle ne voit vraiment pas l'utilité de faire des messages de sensibilisation pour freiner cette pratique-là.
Ok, merci pour sa participation. Et je reviens à l'homme de la culture. Pour vous, vous avez donné une idée de changer la communication. Comment est-ce qu'on peut changer cette communication? Comment est-ce que vous voyez ce changement?
La dame a dit il ne s'agit pas d'abandonner la communication, il s'agit de changer.
Pour atteindre plus de ça.
Alors, nous avons une illustration pratique de ce que nous recherchons. Voici une représentante de la société traditionnelle à qui vous n'avez apporté aucune preuve pour qu'elle change. Elle est là, elle est en train de dire vertement qu'une femme non excisée peut avoir 12 accouchements sans risque. Et elle soutient la position merdicus. On ne lui a pas apporté la preuve du contraire dans la langue de chez elle avec une communication et les gens à qui elle a confiance. Donc, il faut non seulement changer ce paradigme-là, mais aussi aller à l'autre avec des preuves et dans sa langue. Dans toute société, il y a les porteurs de voix. Il y a les porteurs d'opinion auxquels les gens croient. Quand tu vas en région de Mopti, ils ne considèrent ni le gouverneur, ni le commandant de brigade, ni le commissaire de police. C'est pour eux, ce n'est pas la peine. Ce qu'ils considèrent, c'est le marabout, c'est le chef de village et le propriétaire de pâturage. Donc, chaque groupe social a son point d'ancrage pour le changement de mentalité. Et ce sont ces points d'ancrage-là qu'il faut viser, parce que quand eux, ils disent, les gens suivent. Voilà.
Merci beaucoup. Nous allons rapidement faire un tour de table parce que nous sommes pris par le temps, à commencer par M. Brahima. Un mot avant qu'on se quitte. Un mot, un dernier mot avant qu'on se quitte.
Un mot avant qu'on se quitte. C'est que, tout d'abord, par rapport à la CAFO, à la coordination des associations étrangères féminines du Mali, personnellement, toutes les présentes et les présidents de la CAFO ont mené ce combat contre la pratique de l'excision. Je rends hommage ici à Oum Touré. Donc, ma présidente Khadija Aoudou Maïga, qui était secrétaire administrative à son temps, qui ont mené ce combat dur contre la pratique de l'excision. Donc, pour conduire, donner mon mot de la fin, j'ai laissé un mot d'espoir. Le gouvernement du Mali est convaincu que la pratique de l'excision est nuisible pour la santé, est nuisible pour les droits des femmes et des filles. C'est pour cela qu'il a créé le programme national de lutte contre la pratique de l'excision, qui s'est érigé maintenant en programme national de lutte pour l'abandon des violences policières de genre. J'invite le Mali, mon gouvernement, donc à emboîter les pas des autres États de l'AES à légiférer contre la pratique de l'excision.
Un dernier mot, Madame Diodo, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour éliminer à jamais la pratique de la mutilation génitale féminine?
Alors moi, j'irai dans le même lancé. C'est un cri de cœur que je lance vraiment auprès de nos autorités pour l'adoption d'une loi contre cette pratique néfaste pour la femme.
Madame Koulibaly, quel appel est-ce que vous pouvez lancer à l'endroit de la communauté, de la population pour un changement des normes sociales en faveur de l'élimination de cette pratique?
On connaît Bassita, on fait. Nous avons la délégation qui est là, 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 qui la sensibilisation est là, pour que les gens soient femmes. Nous avons actuellement mis en place, c'est que les gens sont femmes.
Alors, Madame met l'accent sur le manque de communication. Elle plaide pour qu'il y ait plus de sensibilisation au sein de nos communautés, dans nos villages, dans nos quartiers, dans la communauté en général, pour qu'on puisse mieux sensibiliser, faire comprendre aux gens la pratique de l'excision. C'est tout ce qu'elle dit en substance.
On va terminer avec vous, Monsieur Amadou Diadé Sango. Qu'avez-vous à nous dire pour mettre définitivement fin à cette pratique dans nos régions?
Il a donné des chiffres, des statistiques pour montrer comment est-ce que la chose est en train de se casser et de s'estomper. Mais la vérité, c'est la sédentarisation et l'urbanisation. Les gens ont quitté leur site d'origine, Donc, on quittait l'ancrage, le point d'ancrage. Tout le monde est venu en grande ville. En grande ville, il n'y a pas d'excision. Et ça va s'éteindre tout seul. Le phénomène, c'est tout seul. Plus un peu de sensibilisation dans les langues du milieu. Arrêtez de parler français à des analphabètes. Arrêtez de parler français. Sinon, vos messages, vos discours n'atteindront pas les cibles. Mais la sédentarisation et l'urbanisation sont contre l'excision et ça va s'éteindre tout seul.
Malgré que vous êtes contre l'arrêt de cette pratique, vous avez quand même donné des conseils.
Oui, oui. Je ne dois pas être fermé. Je ne dois pas être fermé. Je vais donner un conseil. C'est que moi, je suis musulman croyant. Mon prophète.
L'islam n'interdit pas.
Non. Il ne s'est jamais prononcé dessus. On l'appelle ça le mustahab. Si tu le fais, il n'y a rien. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas une recommandation. OK? Donc, vraiment, la femme a été libérée de ce côté-là.
Vous, étant homme de la culture.
Et je suis contre.
Qu'est-ce que vous êtes contre? Et quel message à l'endroit de cette jeunesse qui vous suit?
À l'endroit de cette jeunesse, ils ont besoin de comprendre pourquoi il y a ce débat. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les pour et les contre. La jeunesse a besoin de comprendre et de se faire une religion et de se faire un choix. Peut-être qu'au sortir de cette salle, toutes les filles peuvent se dire, dois-je ou pas, oui ou non, avec la force des arguments, chacun doit savoir. Donc on n'est plus à un moment où on impose quelque chose à des gens. Oh, le temps a prouvé qu'à 40 ans, des hommes sont partis se faire circoncire à 40 ans, parce qu'ils ont fini par comprendre l'importance de la circoncision. Donc il faut former et informer pour que les gens puissent faire leur religion.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est ici que nous mettons un terme à ce débat sur les mutilations génitales féminines réalisées par la rédaction conjointe du Mali, du Burkina et du Niger. On a noté au cours de ce débat que pour les traditionalistes, elle est un bienfait. Faux, rétorquent les spécialistes en santé en s'appuyant sur les résultats de leurs recherches. Aussi, on a noté qu'il faut changer la manière de communiquer afin d'atteindre plus de cibles. Les avis sont partagés. Le débat se termine ici, mais les réflexions continuent. Nous allons dire un grand merci à nos invités. J'ai dit Madame Koulibaly Ramata Traoré, membre de la CAFO, coordination des associations et organisations féminines. Madame Diodo Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, autant pour moi, présidente de l'association L'Adamou, SO des adolescents et jeunes du Mali. Aussi Amadou Dadié Sango, homme de culture, Brahima Balo, de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Rejoignons-nous demain pour la deuxième partie où nous donnerons la parole au public. Restez toujours à l'écoute sur nos antennes. Merci.
Il y a débat.